Jean Giraudoux, Elpénor. C'est alors que mourut le matelot Elpénor. Seule occasion que j'aurai de prononcer son nom, car il ne se distingua jamais ni par sa valeur, ni par sa prudence. Homère, Odyssée, chant 10. Premier chapitre, le Cyclope. L'île était un paradis. Les compagnons d'Ulysse, qui depuis 4 jours n'avaient mangé ni bu, y découvrirent plusieurs sources, dont l'une d'eau pétillante, tous les fruits, plus une belle acidulée, énorme, qui fondait délicieusement avec son noyau dans la bouche, et toutes les espèces de gibier, plus le lubar jaune rayé de noir, qu'il découpait par tranches transversales. En somme, le bonheur, c'est-à-dire tous vos vœux exaucés, plus celui qu'un dieu seul peut former pour vous. Toutes les ombres d'arbres, plus une parfumée qui se modelait sur le dormeur et lui évitait des camarades de sommeil, et il y avait pour les couples d'amis des ombres jumelles. Cependant, dès l'après-midi, matelots et fourriers trépignaient le sable comme s'ils avaient à en arracher le doux jus des vendanges. De leurs yeux, ils versaient d'abondants ruisseaux de larmes, de l'œil droit pétillante, et Ulysse ne voyait point comme aux autres escales les avirons enfin rassasiés d'eau salée, rentrer langue de bois dans les hublots de la trirème, et ses compagnons y apparaître armés de battoirs et de linges. Ils tordaient seulement leurs bras, d'où coulait un soleil aride. Si l'un d'eux, repu de chasse, s'étendait de biais sur son javelot étincelant, il agitait par saccade, dans le sommeil, ses jambes bien fendues, comme les grenouilles sur leur fil de cuivre, et se débattait dans les bras ravisseurs de Morphée. Ainsi l'enfant que sa nourrice emporte loin de la belle flaque d'eau. Bref, ils avaient tous des chagrins mortels, plus un qu'ils ignoraient de ce qu'un dieu seul peut donner. C'est qu'une autre île à 1/4 lieue se dressait, et ils n'éprouvaient plus de désir que pour elle. Non pas qu'elle promît plus que la première, car elle lui était étrangement semblable. Même piquant son centre, sur les escarpements, les mêmes jardins d'oranges, et la mer décidait autour d'elle. Ulysse les fit compter par Périmède, le même nombre de rides. À chaque platane répondait là-bas un platane, à chaque arbousier un arbousier, et les matelots maintenant se refusaient à cueillir les arbouses et les pêches, pour ne pas causer. Ils ne savaient quel dommage à leurs jumelles de l'autre île. Eurylope, qui voyait l'aigle avant que l'aigle ne vit Eurylope, et qu'Ulysse dans les brouillards plaçait devant lui comme un ver grossissant, orientant sa tête de la main, apercevait les mêmes zèbres courir à la file sur le rivage, comme des barrières sous le soleil chatoyant. Aller dans la seconde île était exactement rester dans la première. Mais, de même que l'ami de l'Amazone se languit vers le sein absent et le modèle et le caresse dans le sable des plages, de même que les époux de 2 sœurs jumelles vivent, visage oblique et regard croisé, tournés chacun vers celle qui n'est point sa femme, ainsi un courant doré tournait autour des îles, ainsi qu'une lanière, et les compagnons, remuant d'impatience le pied, comme le repasseur, y aiguisaient leur désir. Ils ne voulaient pas voir que posséder la seconde image du bonheur, c'est en convoiter la troisième et se livrer à la chaîne infinie. Ils imaginaient non plus qu'ils pouvaient, dans ce miroir, se rencontrer eux-mêmes, et comme 2 chèvres sur la planche qu'enjambe l'abîme, se heurtaient du front à leur propre existence. Toujours est-il qu'ils refusaient de jouer avec leurs ossements encore tout frais, arrachés du jour aux tendres agneaux, car ils avaient mangé les osselets emportés d'Ithaque pendant une famine, et qu'ils poussaient de minute en minute comme les poètes de sinistres hurlements. Le matelot et le peignoir se désolaient entre tous. « Oh, divin Ulysse » criait-il, « mène-nous vers la seconde île. N'as-tu donc pas, comme nous, après que tu as accompli un exploit, ou le moindre geste, le sentiment que le même, juste le même, te reste à accomplir ?»« Oui, certes, nous avons pris trois, mais ne sens-tu pas, toi aussi, qu'une seconde trois, intacte, poursuit la vie de la première et, dans tous ces détails, et Hélène machinalement coule vers Paris un regard, et quelque aiguille inconnue applique à la dérobée une gifle sur la croupe du cheval d'Hector, et les servantes d'Écube polissent dans les sous-sols avec un terrible souci une assiette d'argent ternie. Certes, nous avons vu les trois sirènes, mais il nous reste à voir trois sirènes encore, si différentes, juste les mêmes. Et nous envions ceux qui n'ont pas vu les premières. Et toi-même, divine Ulysse, je te touche, j'embrasse tes genoux, mais laisse-moi supplier à travers toi le second Ulysse, dont toi-même, ô cruel, nous sépare. Que celui-là me pardonne d'avoir pour désir une sphinge à deux seins, puisqu'aussi bien j'ai deux yeux et deux oreilles. « As-tu deux langues ?» repartit Ulysse. « En ce cas, je suis perdu. » Mais les matelots s'étaient assemblés. « Ô roi d'Ithaque » criait-il, « le pédor est fou, et fou qui veut aller dans l'île. Or donc, inflige-nous la punition de nous y conduire, car il est évident qu'arrivés là-bas, nous n'aurons plus de soucis que pour celle où maintenant nous sommes. » « Au travail, camarades, et jetons à la mer pelure, os et noyaux, car nous nous repentirions amèrement, une fois en face, d'avoir souillé, quand il était notre demeure, notre désir. » Ainsi, il croyait flatter Ulysse, rigoureux sur la propreté, et bientôt il n'y eut plus de sale, comme dans les pays récurés du nord de l'Europe, que l'eau et que la mer. « Paris donc le vaisseau !» leur dit Ulysse. « Ô Zeus » pensait-il cependant, « ne m'as-tu pas mené aux limites suprêmes, et cette barre qui joue entre les deux îles n'est-elle pas le pli qui sépare notre monde du monde des idées ? M'as-tu donc jugé digne le premier de voir des mortels et des objets autre chose que leurs corps et leurs ombres ? Cette île n'est-elle pas l'idée de notre île, l'île que toi-même tu créas, car tu ne serais pas Dieu si tu étais mêlé de l'ignoble matière, et un démiurge a suffi. Allons donc vers l'île véritable. Oh, je sens que la ceinture de l'univers s'agrafe par ces deux boutons étincelants. » Mais il se garda de confier de telles pensées à ses matelots, et se contenta de les faire parer et parfumer, comme le philosophe pare et parfume ses disciples, le jour de son cours où ils doivent apercevoir à travers les mots le royaume des idées. Puis Zéphyr, prenant le vaisseau par ses deux voiles, l'emporta, et soudain, comme le cocher ramène la tête du cheval effrayé vers la bande de marbre, l'arrêta frémissant près d'un promontoire. Là où séjourna leur désir, les mortels vont avec plus de respect que là où habita un dieu. Tout ce que les matelots avaient détruit ou dédaigné dans la première île, ils le considéraient maintenant d'un œil charmé et le caressaient de mains innocentes. Ils ne tuaient plus les animaux, et d'ailleurs le soleil couchant enveloppait les antilopes, les martres et les papillons même du vernis dont s'enduisent les feuillages éternels. Seule l'âme d'Ulysse était rongée par l'inquiétude et sans vernis, car il avait aperçu sur le rivage l'empreinte d'un pied gigantesque. Anxieux aussi de peser le moins possible sur un monde peut-être immatériel, il avançait d'un pas sans trace, tâtant le terrain de son bâton comme s'il eût pensé à un décor creux, et il fermait les yeux au moindre rayonnement, par crainte qu'une fulguration subite n'absorba le faible flambeau de son âme. Oh, Pallas, pensait-il, fasse que je foule une terre et non une œuvre de Zeus. Fasse surtout que le géant qui habite cette île ne soit peint par un jeu de l'Olympe ma propre idée. Je viens de voir qu'il ajuste ses bandelettes en méprisant l'orteil, ainsi que seul j'en ai la coutume. J'en frémis. Quel prestige j'aurais désormais aux yeux de ses matelots. Ton cher Ulysse, s'il l'avait pu comparer à un Ulysse décuple. D'autre part, voyant l'ombre de Riloc happée par l'ombre avide d'un figuier, il recommençait à craindre que tous ces faibles corps humains, y compris son corps royal, ne fussent bu soudain par leur divine souche, et il préféra rentrer au sein de la terre même. « Ô camarades, ordonna-t-il, montons à cette caverne et dormons !» Et il imposait silence à Phaésias, le premier qui est inventé de dire « vous » au lieu de « tu » et qui répétait « ô vous, Ulysse !» Et le roi d'Ithaque frémissait de cet insolent pluriel, peut-être justifié. Déjà, ses compagnons dormaient et lui-même marchait en gambadant sur le monde de Morphée, plus solide ce soir-là que le monde de sa veille, quand le soir jeta dans la grotte un troupeau de brebis immense et l'y laissa, et ainsi l'ouragan abandonne au rivage ses flocons et ses colères. Le géant entra derrière elle, et d'un rocher sépara la nuit du dehors de la nuit sans étoiles. Puis il prépara du feu, et les nœuds des chaînes sous ses mains éclataient comme des fougasses. Ulysse, aux jointures duquel, comme un mâle, s'accumulait l'angoisse, écrasé par la crainte de l'immortel et géant Ulysse, tâchait de distinguer les mouvements du monstre. Mais il ne pouvait qu'entendre son fracas. Cela, d'ailleurs, lui suffit, et bientôt son cœur battit moins vite. « Ô fille de Zeus, pensa-t-il, sois louée. Celui-là tous renacle et crache. Celui-là n'est pas le net Ulysse. » À ce moment, le feu flamba et le géant vit les Grecs. Il était un jeune cyclope, hirsute comme la montagne, et qui dévorait une biche. Tous pâlirent, moins Ulysse, qui ne redoutait guère que lui-même, fut sa grandeur égale et qui s'avança au-devant de l'horreur, épanoui à l'idée de berner un cyclope, et se divertissant dans son discours à des inversions. Car par plaisanterie, il recourait aux formes du langage des futurs germains, qui gardent pendant toute la phrase le verbe comme un noyau dans leur bouche et l'échappent soudain. « Ô cyclope, dit-il, ce n'est pas deux, ce n'est pas quatre, ce n'est pas six yeux ou père ou couple Dieu qui, pour contempler celui qu'au centre de ton front, par ton cerveau même tu nourris, suffirait. Bouclier contre lequel d'Apollon les flèches se brisent, et ton sourcil, comme l'arc noir de l'Amazone au-dessus soudain de son bouclier rond, sur lui apparaît et se tend. Ô cyclope, quand ton œil tu clignes, il semble que le soleil cligné a. À quoi la beauté reconnaît-on? À ce que les dieux l'envient. Or tu es du plus puissant, de l'amour lui-même envié. « J'ai bien, dit l'amour, et non l'amitié, et non le plaisir. Anxieux de te ressembler, l'amour s'apposa sur l'œil droit un bandeau qui depuis a glissé aussi, le maladroit sur le gauche. Le cyclope s'inclina, et ce que Borée ne peut avoir du chêne, de cette masse, le souffle d'Ulysse l'obtint. Cependant les matelots hilarent, et délirant de trouver à la place d'une terrible aventure un intermède, se levait et criait « Hurrah, hurrah pour le cyclope !» L'amour tâche à lui ressembler. Cache-toi, ô amour, tu connais les cachettes. Le cyclope les écoutait, stupide. Les éclats grecs de ses voix traversaient de ses pavillons la forêt épaisse que les optatifs chatouillaient. Une minute, il semblait les y retenir, penchant la tête comme un vin dans une coupe, puis laissait aller la louange par l'énorme canal qui conduit au marteau. Celui-ci frappait sur l'enclume, l'enclume sur le tympan, alors il entendait. Mais son tympan était si sonore et si large qu'on l'entendait entendre. « Étranger, dit-il enfin, tu as la langue bien pendue. S'il est permis avec toi de n'avoir qu'un œil, il ne l'est point de n'avoir qu'une oreille. » Alors les matelots, comprenant qu'ils étaient sauvés, claquèrent des mains et crièrent « Mais c'est pas du miel qu'il y a sur les lèvres du cyclope. Ou alors avec ce miel, l'abeille oublia son aiguillon. Il a de la répartie comme un diable. » « Étranger, répondit le cyclope, j'aime vos discours. Oh, je m'en voudrais de vous cacher qu'un jour viendra où vous me servirez de pâture. Mais que cela ne vous empêche point d'être amis. La cuisinière alerte tuera les poules, mais elle est la bienvenue dans la basse-cour. Et la gentellée à l'envie, s'ébroie de joie à sa vue. » Alors, les compagnons d'Ulysse, comprenant qu'ils étaient perdus, s'écrièrent « Ben, il a raison, ébrouons-nous à l'envie. Le Troyen qui affirmera que la cuisine alerte n'est pas la meilleure amie des poules, nous lui enfoncerons dans sa bouche fendue de miel comme l'œil amande de l'hypocrite asiatique un coup de maillet et une betterave. » Le cyclope tourna le dos au feu. Sa longue barbe était pleine des débris de l'antilope, mais les matelots n'osèrent le lui signaler, sachant que les hommes eux-mêmes se froissent d'une telle remarque, que l'intérêt public pourtant inspire seul. « Et toi, dit enfin le géant à Ulysse, qui a la langue comme un python pendu par la queue, et par elle pourrait soulever un bœuf. Quel est ton nom ?»«
Je m'appelle Personne, répondit Ulysse. »
« Peut-être donc il ne me dit rien, dit le cyclope. Mais ne connais-tu pas les droits d'un hôte? N'as-tu pas à me révéler aussi le nom de ton père et celui de ton aïeul ?»«
Oh, mon père s'appelait Deux Personnes, reprit Ulysse. Il était de naissance noble. Moi, cependant, que le père de mon père, qui s'appelait Deux Personnes. »
« Et toi ?» dit le cyclope à chaque matelot. Mais les matelots, devinant la liste de malice de leur roi, fixèrent les yeux sur lui, et d'après la part du corps qu'il désignait du doigt sur lui-même, se forgèrent chacun leur nom.
« Je m'appelle Montfron, dit Eurylocque.
Et tous suivirent son exemple. Non toutefois sans une alerte causée par Elpénor, qui n'avait pas compris la ruse, et s'obstinait à ne pas répondre, interloqué par le geste d'Ulysse, qui montrait son œil d'un doigt plus frémissant que celui de la boussole, et par les 24 gestes de ses camarades qui imitaient Ulysse. Déjà le cyclope allait sur lui, menaçant. Enfin sa face s'éclaira.
« Mais je m'appelle le Cyclope » hurla-t-il triomphant, et le nom résonna dans la caverne.
Alors ses compagnons, voyant leur mort, s'écrièrent « Oh, que ne sommes-nous restés dans l'autre île ! Certes, il est beau de voir le plus bel œil de Cyclope luire à notre prison, mais que sert au malheureux chancre d'habiter l'huître ? Nourrit-elle la plus belle perle ?» Mais, entendant ce nom redoutable, le cyclope, pris d'un tremblement, se rassit. « Dis-moi, personne, demanda-t-il doucement, quand son cœur fut calme, as-tu jamais aimé ?»«
C'est selon, repartit Ulysse, qu'entends-tu par aimer ?»«
Par aimer, reprit le cyclope, et coloré par les reflets du bûcher, il semblait brûler lui-même. « Bien par aimer, j'entends frissonner d'un feu qui glace, étouffé d'une ombre aride, j'entends écrire mon nom à l'arrache sur l'écorce des chênes, et dans la mer avec des quartiers de roches habilement posés. Pauvre nom que le fuc chaque jour recouvre. Et je me sens des heures entières anonymes, et j'entends enfin, selon l'humeur de l'objet, c'est ainsi, n'est-ce pas, que vous autres hommes appelez vos amantes, selon l'écart des deux petits plis à son front, fatal aiguillage, arriver en une seconde à l'idée du bonheur ou du malheur éternel et le tuer, j'entends l'objet, s'il le faut. Ô camarade, répondit seulement Ulysse, chantez au cyclope ce que c'est que l'amour. Il dit, et les matelots clamèrent l'hymne de Pénélope. Aimer, c'est chaque nuit couper des fils de laine, les retendre le jour. C'est vouloir, c'est ne pas vouloir, c'est être reine, c'est maudire l'amour. Et Périmède balançait son corps au-dessus d'eux pour marquer la cadence. Le cyclope les interrompit effaré. Holà, dit-il, quel est ce langage bizarre, élastique et trompeur, qui me donne l'impression de rouler sur la crête des vagues, puis d'enfoncer, et qui me chavire. Ce sont des vers, repartit Ulysse, et les femmes cèdent à qui les leur offre. Remets-toi, te voilà tout pâle. Le cyclope s'épongea. Il faut être habile comme ce vieux pilote, dit-il en désignant Périmède, pour se tenir droit sur une pareille houle. N'avez-vous donc point un mode d'aveu moins incommode pour l'amant ? Ah, nous avons les versets, repartit Ulysse. Certes, l'attaque régulière de la rime et l'absence de toute relation entre le rythme et la pensée, et qualité maîtresse des vers, les rendent plus redoutables pour le physique des hommes, mais les versets épousent les mouvements mêmes de la passion. L'âme elle-même est leur doublure, non le bois blanc des versificateurs. Et entre les césures, on l'aperçoit elle-même étincelante. Camarades, résidez au cyclope les versets d'Ulysse. Partant, ils déclamèrent et Périmède levait la main aux césures et aux rejets, la gardait une minute haute, retenant les plis soyeux du verset, comme le dieu voyeur qui soulève les tentures de la chambre nuptiale. Ah, vois mon écuyer tiré par la boucle du timon, le double attelage et l'accrocher. Au train bombé du char, vois Mars avec effort ceindre une de ses ceintures. Ah, l'un remuant et harcelant l'autre, vois les deux étendards à ma fenêtre dans le vent du matin se parler et se mordiller comme mes deux chevaux. Ah! Comme le roi qui essaye sur ses courtisans une vertu nouvelle, ô jour nouveau, laisse-moi t'essayer sur moi. Ô aurore, ô pudeur, colore d'Ulysse tout ce que l'acier et l'or ne rend point vulnérable, et glisse un fil rose entre les jointures de mes cnémides. Et laisse-moi brouiller comme un jeu qui ne servira plus les lades de ses petites cases. Ô Ithaque, chef-lieu, Athènes, « Ô Esbos, chef-lieu Sidon !»« Décidément, dit le cyclope, j'aime mieux le vers malgré le mal qu'il me fait. Auquel des deux, dis-moi, les femmes cèdent-elles le plus vite ?»« C'est selon, repartit le divin Ulysse, qui n'était point divin, comme on le sait, en ce que toujours il succombait au désir de placer une de ses épigrammes. Le vers, je te l'ai expliqué. » Agis sur les muscles et les forces à sourire. Tu as vu sourire une femme, Cyclope ?
J'ai vu les cheveux frisés que Galatée coupe droit sur son front seulement tout d'un coup par la brise. Son visage restait sévère, mais ainsi sourit par sa frange la mer cruelle.
Le verset, poursuivit Ulysse, gonflant leur cœur, les fait pleurer. As-tu vu pleurer des femmes, Cyclope ?
J'ai vu l'averse sur le visage de Galatée. Elle souriait, mais de grosses gouttes coulaient sur ses joues.
Mais l'épigramme, acheva Ulysse, les jette pantelantes à tes pieds. Camarades, chantez au Cyclope l'épigramme que fit Paris pour Hélène, fille de Léda. Il dit, et les matelots chantèrent. Ô dis, femme d'Agamemnon, qu'en amour faux est ton renom, et que, fasse qu'on ne le croit, tu ne sais aller jusqu'à Troie.
Et que répondit Hélène? Demanda le cyclope exultant.
Camarade, ordonna Ulysse, dites au cyclope ce que répondit Hélène. Il est discret, nul ne le saura. Je sais que d'abord elle rougit.
Ben, j'ai vu rougir des femmes, hurla le cyclope. J'ai vu Galatée endormie et le soleil levant sur ses joues. La seule qui rougit s'endormant.
Mais le cœur lui coupa la parole. Et toute pente lente, acheva le cœur, qui reprenait par flatterie les adjectifs de son roi, elle dit « C'est un péché, je le confesse, mais Paris vaut bien une messe. »
« Vous me ferez une épigramme, » cria le cyclope délirant. « Mais vous n'êtes pas tous indispensables pour l'achever. Voilà que j'ai faim. Ne puis-je rôtir deux ou trois d'entre vous ?»«
Ô cyclope, » repartit Ulysse, « enlève alors un de ses tuyaux et il joue faux. » Tue l'un de nous et l'épigramme rate. C'est ainsi qu'avec des sobriquets, Ulysse avait bâti de ses matelots un corps invulnérable, et autour du nom insaisissable de personne, il goûtait un calme enviable, le suivant dans chacun de ses gestes, comme les brebis qui se groupent pour habiter et suivre l'ombre d'un nuage.
Attention, dit Ulysse, ayons l'œil et le bon.
Au-dessus de l'œil du cyclope, fermé comme une trappe sur les caves du sommeil, six matelots balançaient en mesure un tronc d'olivier dont la pointe était rougie. C'étaient les six que désignait Ulysse pour ficher dans un rivage le pieu qui retient le vaisseau dans la tempête. De la même force, ils allaient planter celui-là et amarrer leur vie au fond de l'ombre éternelle. Les brebis, prévoyant quelque malheur, émettaient plaintivement, laissant la première aux hommes qui s'indignent, la dernière aux serpents qui se froissent, la seconde lettre de l'alphabet. B.
Une, deux, trois, commanda Ulysse.
C'en était fait. Ainsi, si la terre était ronde, déborderait-elle, éclaterait-elle? Un dieu d'acier enfonçant en elle son index rougi. La nuit en monta et s'enflammait comme les becs de gaz noir. Chacun des sourcils et des cils crépita comme les tiges d'hyacinthe fanées qu'on jette au vent. Le cyclope sauta sur ses pieds et avec des hurlements épouvantables appela les autres cyclopes. « Oh, il s'est réveillé !» se dit l'astucieux Ulysse. Deux heures durant, le géant tourna en rond et les brebis effrayées galopaient devant lui. Bouche complète et telle qu'il s'enforme dans le sein des métaux infernaux. Enfin, comme il piétinait les agneaux épuisés, il eut pitié d'eux, il s'accroupit au centre de la grotte, lançant parfois au hasard pour saisir les Grecs ses mains à droite et à gauche. Mais il ne pouvait attraper que des crabes que les compagnons d'Ulysse avaient pêchés sur le rivage et s'amusaient à lui tendre au bout des coudriers flexibles. Bientôt, tous les autres cyclopes s'assemblèrent devant l'antre.
Hé, cyclope, criait-il, tu cries comme une vraie pucelle, dis-nous qui t'a pincé.
Mais c'est personne, répondit le cyclope, c'est personne.
« Mais qui est-ce, ton personne ?» demandèrent les cyclopes,
car ils voyaient à l'absence de la négation que personne était un nom propre et point un pronom.
« Personne, » répondit le cyclope, « c'est le fils de deux personnes, le petit-fils de deux personnes. »
Les cyclopes se mirent à rire. « Voilà que tu bégayes, cyclope. »«
Et le bandit n'était pas seul, » continua Polyphème. « Il y avait... »
Et il nomma 24 parties de son corps, croyant nommer les 24 compagnons d'Ulysse. Les cyclopes étaient en joie.
Et ton nombril, Cyclope, crièrent-ils, n'a-t-il rien fait dans cette histoire ?
Et, pouffant de leur plaisanterie, ils regagnèrent leur clos en lutilant leur compagne.
Soudain, le cyclope se frappa le front, sur le côté, comme font les cyclopes quand ils ont une idée.
« Oh, mon père, gémit-il, ô Neptune, guéris-moi de l'épigramme que m'ont faite les maudits Grecs. Déjà, ils voulaient m'apprendre des vers et me donner sur la terre les impies, ces alertes de cœur qu'on doit éprouver que sur les flots. Guéris-moi, car est-il plus difficile pour un dieu de tirer son fils de l'ombre que du néant ? Vois-moi, ô mon père, et je verrai. »
Il dit, et Neptune, d'un souffle, chassa la pesante boule d'ombre que supportait le dos écrasé de son fils. Puis, du flanc encore ensoleillé des sapins, comme le forestier recueille la résine ambrée, du rebord occidental de chaque tige d'épi, du creux de chaque feuille et du verso rouge de chaque vague, il fit couler la tardive clarté dans ses deux mains. Puis, comme un guerrier qui s'élance casse les baguettes d'un buisson, il cassa les derniers rayons du soleil. Puis il tira la surface de la mer et les regards inclinés de tous les marins du monde coulèrent vers lui. Alors il lança sans mesure toute cette lumière par le phare puissant. Puis, comme l'intendante qui règle la lampe, il en fit un regard moyen de cyclope, mais désormais doré, puisque c'était fait du jour finissant. Le cyclope poussa un cri de joie. Il voyait. Épuisé, il en profita aussitôt pour dormir, et déjà les cils et les sourcils repoussaient comme le tendre blé. Les Grecs les regardaient avec terreur monter, noire moisson. Déjà, les six matelots les plus forts et les plus lents à comprendre balançaient à nouveau au-dessus du géant le pieu rougi, quand Ulysse. « Pensez-vous donc, dit-il, réussir à six ce que ne purent à 50 les filles de Danaos, et verser la nuit dans ce tonneau sans fond ?»« Ô roi d'Ithaque, répliqua Eurylope, nous voilà donc perdus. »« Mes amis, reprit Ulysse, réfléchissez un peu. Qu'y a-t-il d'invulnérable dans un héros fils d'un dieu ? Son corps est invulnérable, ô Ulysse, car Zeus d'un mot peut le guérir. »
« C'est donc à l'esprit du cyclope qu'il faut s'en prendre, » repartit Ulysse. « Nous nous attaquons plus à son œil, mais à sa vue. Quand Elpénor parvient à s'extraire de l'entrepont où il fume l'herbe des lotophages, il a encore ses yeux, et des yeux plus larges que de coutume, mais il prétend que ses pieds restent collés à terre et que ses jambes s'allongent sans fin. »
« Oh, Ulysse !» interrompit l'équipage enthousiasmé, « tu as raison. Prenons la drogue d'Elpénor et la donnons à fumer au cyclope. Prenons-la en cachette, car voilà Elpénor furieux et qui menace sur le vol de révéler au cyclope ton vrai nom. »«
Que Elpénor sera sûr, dit Ulysse, mon projet est plus simple. »«
Oh, Ulysse !» répliqua l'équipage, « ton projet est de retourner les tableaux, d'accrocher les tables au plafond, comme nous fîmes un jour pour le Bernay dans la tente d'Ajax. Ceux d'entre nous qui parlaient restaient immobiles, et d'autres faisaient les gestes, et d'assiettes vides nous dégustions un succulent potage. Ajax en devint fou.
Mon projet est plus simple encore, écoutez, dit Ulysse.
Le lendemain, le cyclope fut tiré de ses rêves par des attouchements à son visage et à ses épaules nues, et il sourit, car souvent l'aurore jouait à le caresser de ses doigts. Il entr'ouvrit son œil, et soudain ne put l'en croire, car c'étaient les pieds nus des compagnons d'Ulysse qui foulaient sans respect son corps, y laissant une minute leurs empreintes. La caverne, d'ailleurs, était au pillage. Les Grecs buvaient vin et lait à même l'outre et à même le pis. De vieux fourriers barbus, chevauchait les béliers et engageait les courses, comptant au sablier le tour de grotte le plus rapide. Et comme le cyclope poussait un premier rugissement, puis un second, aucun ne daigna l'entendre. Le géant en fut stupéfait. « Oh, toi, cria-t-il, chef de cette bande, d'où vient que tu m'insultes à mon propre logis ?»« Oh, cyclope, repartit Ulysse, que mal à propos tu t'éveilles. Notre vœu le plus ardent serait d'avoir à te respecter et à te craindre. Un motif puissant nous l'interdit et nous ordonne de faire de toi un jouet. Toi-même, l'imbécile, l'approuvera. » Moi-même, hurla le cyclope, moi-même l'imbécile, et quel motif? Mais qui nous dit que tu existes, cyclope? Nous sommes sûrs de notre propre vie, non de la tienne. Crois-tu donc que je me hasarderais à te nommer imbécile, ou même idiot, si le monde n'était pas qu'apparence? Qu'apparence, mais qu'est-ce que c'est qu'une apparence? « Camarade, dit Ulysse, chantez au cyclope ce qu'est l'apparence. » Il dit, et eux chantèrent l'hymne d'Orien. « L'apparence n'a qu'une mèche de cheveux. » Et il confondait avec l'occasion. Mais Ulysse se garda de les reprendre. Alors il expliqua au géant le jeu des illusions, et que la matière est esprit, l'esprit néant. Et il lui fit rouler de l'index et du médium croisé une boulette de pain, et le cyclope était atterré de sentir qu'il en roulait deux. Cependant, il ne se laissait pas convaincre. « Étranger, dit-il, tu parles bien et passes pour la matière. Mais si chacun n'est assuré que de sa propre vie, je le suis donc de la mienne, et j'ai le droit de saigner et de rôtir 24 chétives apparences. » « Oh, libre à toi, dit froidement Ulysse, de renier ton propre royaume. Les apparences auxquelles tu commandes ne sont pas déjà si brillantes ni si nombreuses. Par un coup de génie, tu as pu te créer des images de Grecs. Libre à toi de remplacer chacune par un souvenir vide. Tu es avare et tu ne voudras point avaler tes trésors. D'ailleurs, comment nous prendrais-tu ? « Mais je courrai après vous, je vous attraperai, » dit le cyclope. « Laisse-nous rire, cyclope, » repartit le menaçant Ulysse. « Ne sais-tu donc pas ce que c'est que l'espace ?»« Camarade, chantez au cyclope le chant de l'espace indivisible. Ou plutôt, pourquoi Achille, nous faisons l'expérience souvent sur la plage de Troie, ne peut rattraper une tortue ?»« Ou peut-être, masse éléphante, te crois-tu plus rapide que le fils de Pelée ? » C'est ainsi que débuta pour le cyclope une semaine de torture. Il s'obstinait à ne pas relâcher les Grecs, mais chaque jour, par la bouche d'Ulysse, lui enlevait une de ces lourdes idées qui maintiennent rigides les plis des âmes naïves. Ainsi la robe à volant, qu'on prive de ses boules de plomb, se soulève au moindre vent, et trahit des femmes les lisses genoux. Aujourd'hui, Ulysse détruisait le temps, et le cyclope s'allongeait sur la grève, sans passé, sans avenir, comme un sablier crevé, et tout le sable de la mer semblait sorti de sa poitrine débraillée. Le soir, c'était le tour de l'espace, de cet espace auquel les philosophes se plaisent à ajouter, comme une rallonge par invité, une dimension pour chacun de leurs lecteurs sérieux. Et le géant, se croyant tenu de marcher par pas indivisibles, lançait comme un ataxique le pied loin en avant et renonçait à suivre la plus faible brebis. Ou bien le roi d'Ithaque lui apprenait à ne plus croire aux couleurs. Et, semblable au chagrin même, sa crédulité teignait de noir. Car Ulysse n'avait pas dit que le noir est une couleur. Tout ce qu'il aimait le plus, ses brebis blanches, ses béliers roux. Il croyait maintenant au rêve, et sa vie fuyait par la nuit comme par une citerne mal cimentée. Puis Ulysse lui apprit les faux syllogismes, l'univers construit sur des nombres. Et il voyait chaque chose rouler sur de petits chiffres, comme sur des dos de fourmis. Déjà, il bégayait, se heurtait par chaque mouvement aux parois de la grotte, et comme un enfant n'avait plus qu'un souci, nourrir ses images. Lui-même maigrissait, mais il gavait les Grecs de beurre et de fromage, et ses brebis, traites à chaque instant, maigrissaient elles aussi, car elles étaient en chair, chères, brebis aimées, et point d'ingrates apparences. « Ô félicité !» criaient les compagnons d'Ulysse. « Aucun de nos maîtres ne fut jamais si généreux. Vous rappelez-vous le mois que nous fûmes les images des Siconiens et nous n'avions que du pain et de l'eau ? Ou la semaine où nous étions les images des filles de Mélados et elles nous voulaient tous les matins raser de frais ?» Le cyclope enfin n'y tint plus. « Ô étranger, supplia-t-il, délivre-moi » « Délivre-nous, Cyclope, répondit Ulysse, et tu es libre. »« Jamais !» cria Polyphème. « Ou bien vous restez mes images, vous soyez vous garde, ou vous ne l'êtes plus et je vous dévore. »« À ton aise, » dit Ulysse. « Camarade, chantez au Cyclope, l'hymne appelé, aspect lamentable de la vie du Cyclope.
Ainsi que l'oiseau égaré dans un nuage, je ne sais plus où est le ciel, où est la terre, où sont les flots. Du cœur de Galatée me sépare le vide, l'infini et le néant. Des yeux de Galatée me séparent l'éther, les prismes trompeurs, l'espace que rien ne comble. De la pensée de Galatée me sépare l'éternité, l'inconnu et le brouillard principe. Les trois mains du temps, le présent, le passé, l'avenir, jouent à la main chaude avec la main de Galatée. Des lèvres de Gala. Arrêtez, arrêtez ! Cria le cyclope. Je jure de ne pas vous tuer, mais au moins, donnez-moi un remède. Ulysse fixa de ses yeux l'œil du cyclope et parla en louchant. Le remède, cyclope. Et que nous reprenions l'aventure au point où nous l'avons laissée. Oh, que je vous tue, alors. Mais tu ne nous eusses point tués, repartit Ulysse, car ma ruse veillait. Cependant, qu'aveuglé par la drogue d'Elpénor ou par le pieu, tu ruminais ta vengeance. Tes brebis affamées se fussent mises à bêler. Ta main eût alors écarté le rocher qui ferme la grotte. Tu les aurais libérées une à une, caressant leur dos, et mes compagnons, pendus à leur ventre, eussent passé sans encombre. Moi-même, je sortais cramponné à la laine de ton plus beau bélier. Tu l'arrêtais et lui disais « Écoute bien, car il te faudra répéter. Ô bélier, ô mon ami !» Toi qui chaque matin t'élançais le premier vers les pâturages. As-tu deviné mon malheur ? Tu sors le dernier aujourd'hui. Sauvez-vous donc, dit le cyclope, adieu. Nous ne nous sauverons pas, s'écria l'équipage. Les lâches seuls osent fuir. Triste courage. Non, nous voulons reprendre nos corps dans les recoins de la grotte où nous les avons laissés le soir où tous nos filles de toutes tes images. Veuillent les dieux, ô camarades, que nos dépouilles soient encore en bon état. Ils dirent, se tapirent dans les angles de l'antre, de façon à emplir leurs poches de fromage et de fruits. Une fois chargés, s'accrochèrent aux brebis et disparurent dans la lumière. Ainsi les rêves. Le cyclope, maintenant, tâtait le dos de son grand bélier, non sans essayer de caresser de l'autre main, dernier adieu, le visage d'Ulysse. Mais le héros détournait la tête avec dégoût. « Poursuis-nous !» ordonna Ulysse, quand il fut à distance raisonnable. Le cyclope les poursuivit sans se hâter, car, ébloui par le jour, c'est eux qui étaient aveuglés, et ils titubaient à chaque pierre. Parfois il se retournait et insultait le cyclope pour donner du vraisemblable à la poursuite. Enfin, tous parvinrent au détour du promontoire où ils avaient dissimulé leur vaisseau. Sur la mer dorée, il flottait avec ses voiles rouges. C'était la première image de vaisseau qu'eût créé le cyclope, et il la balançait sur les eaux avec surprise, et il tâchait de la séparer de son reflet, aussi coloré qu'elle-même. Le temps pour lui de créer l'image des avirons, du mât de perroquet et du mât d'artimon, et le vent déjà gonflait les voiles. « Ô chers hommes !» cria le cyclope, « dans un moment de délire je vous ai conçu, et aujourd'hui ma sagesse vous chasse. Mais ne vous regretterai-je pas? Je pleure, et jamais je ne vous ai vue aussi brillante. » Car il leur parlait au féminin depuis qu'il les croyait ces images. « Lance-nous des quartiers de roche !» cria Ulysse. « Les remous détachera du nord notre vaisseau. » « Voilà, ô la plus belle et la plus rusée !» cria le cyclope. « Prie ton père de nous accorder bon voyage. »« Je le prie, ô la plus barbue !» Déjà, les Grecs étaient hors d'atteinte. Alors Ulysse, six hommes disposant leurs mains en porte-voix devant sa bouche, « Ô cyclope » cria-t-il, « masse imbécile, ta stupidité comme ta laideur, sans limite. Crois-tu donc que les images d'un rustre puissent être des Grecs et qu'un cerveau de cyclope puisse sans éclater inventer l'idée d'Ulysse ? Car ce n'est pas moins qu'Ulysse et ses compagnons que tu viens stupidement de libérer. Et n'attends plus de douceur de ton métier pastoral, car là où ils sont passés, le tendre gazon ne repousse plus sur les âmes. » Alors ces matelots crièrent leur nom véritable, soufflant dans l'air le corps grotesque de leur sobriquet. Et c'était Eurylope et Périmède, c'était Orchéus et Pyséleonte, et tous les membres du corps vivant de l'Odyssée. Et chacun injuriait le cyclope. « On devrait toujours garder ces images près de soi, comme ces troupeaux, » pensait le géant. « Dès qu'elles s'éloignent, elles deviennent sauvages et nous insultent. » Quand la mer n'eut plus de reflets, la terre plus d'écho, il remonta tristement à sa grotte. La tête lui tournait encore de cette semaine folle, mais soudain un agneau boiteux se mit à courir devant lui. Ému, il voulut le rattraper. Un long moment n'y parvint point, car il luttait contre son pas indivisible et dépassait chaque fois le but. Enfin l'agneau fut pris et le cyclope soupira, car il lui semblait, victime encore du sortilège, qu'il avait pris l'agneau dans son cœur et non dans ses bras. Il le regarda de près, approcha sa tête de ses lèvres, mais soudain, comme ses yeux aussi l'effleuraient, il le vit blanc. Il vit vertes ses prunelles, noires ses sabots. Il bondit de joie d'avoir retrouvé les couleurs. Il bondit, ô bonheur, sa tête ne butait plus contre le ciel qui était tout bleu, il ne souffrait plus de son ombre qui était violette. Alors il se hâta de traire ses brebis et des larmes d'espoir coulèrent de ses yeux. Elles tombaient dans le seau où aussitôt le lait caillait, et il fit ce jour-là le plus délicieux de ses fromages.